Chirac qui a recueilli 19,67% des voix, Jean-Marie Le Pen 17%, Lionel Jospin 16%, François Bayrou 6,89%, Arlette Laguiller 5,77%, Jean-Pierre Chevènement 5,36%, Noël Mamère 5,27%, sous la barre de 5% on retrouve Jean Saint-Josse avec 4,29% des voix, Olivier Besancenot 4,28%, Alain Madelin 3,9%, Robert Hue 3,4%, Bruno Maigret 2,3%, Christiane Taubira 2,1%, Corinne Lepage 1,89%, Christine Boutin 1,2%, Daniel Gluckstein fermant la marche avec 0,47%, Jean-Marie Le Pen 17%, 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 Jean-Marie Le Pen 17%. L'événement de ce premier tour, c'est donc le score de Jean-Marie Le Pen, un résultat sans doute favorisé par le fort taux d'abstention lors de ce premier tour, plus de 27% selon des chiffres officiels, un record dans une élection présidentielle depuis le début de la Ve République.
J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle.
Je sais que l'inquiétude est vive également dans la population française. Elle s'est d'ailleurs exprimée quelques minutes après l'annonce des résultats. Spontanément, des milliers de personnes ont manifesté dans l'Hexagone contre la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Manifestation à Paris, Marseille, Lyon, Dijon. Ils étaient plus d'un millier dans les rues de Grenoble, 4000 à Rennes et Strasbourg, 7000 à Toulouse. Des manifestations qui ont scandalisé Jean-Yves Le Gallou du mouvement national républicain de Bruno Maigret. Il estime que le choix des électeurs ne doit pas être contesté.
Donc aujourd'hui, Daniel Ben Saïd à propos de la publication d'un livre, Un monde a changé, mouvement et stratégie. C'est publié aux éditions textuelles. C'est, Daniel Ben Saïd, un vaste chantier auquel vous tentez de vous attaquer à travers ce livre, ou en tout cas un vaste chantier que vous tentez de poursuivre. C'est un peu dans la perspective de changer de système, ou même dans la perspective révolutionnaire, osons le mot. Vous interrogez les acteurs, les stratégies, vous interrogez également l'outillage intellectuel à notre disposition, et vous en faites un état des lieux très critique, dont on reviendra, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Vous commencez votre livre par un retour sur les événements du 21 avril 2001 qui ont vu au deuxième tour, au 21 avril 2002 effectivement, qui ont vu un deuxième tour Chirac-Le Pen, loin de ce qu'on pouvait imaginer. Et pour vous, c'est la trahison, la rupture de la gauche avec une sorte de pacte social qu'elle assumait jusque-là sur la place politique qui fait qu'on en est arrivé là.
On en est arrivé là, c'est-à-dire que depuis 81 ou 83, en fait,
En rappelant que la gauche a quand même gouverné 15 ans sur les 20 ou 21 dernières années maintenant, tout au long de cette expérience, et là elle a eu la durée de son côté, le divorce n'a cessé de s'approfondir entre cette gauche institutionnelle et gouvernementale et les couches populaires qu'elle était censée représenter. Donc oui, bon, personne n'aurait pu pronostiquer à coup sûr la présence de Le Pen au deuxième tour. En revanche, je crois qu'on pouvait annoncer bien avant les élections qu'à force d'affirmer et de prétendre que les élections se gagnaient au centre, elle finirait par se perdre ou par pouvoir se perdre à gauche. C'est ce qui est arrivé. Mais ce coup-ci, ça n'a été qu'une alerte sérieuse. Mais à continuer dans cette voie, le troisième accident peut devenir encore plus sérieux.
Mmh. Mais en même temps, vous avez quand même des phrases assez dures. Vous parlez d'une rupture du pacte social qui liait historiquement la gauche avec les classes ouvrières, les classes populaires. Enfin, on sent peut-être que là, il y a quand même une fracture, non pas comme dit Chirac, mais une vraie scission quand même dans la façon dont les classes populaires, pour dire vite, peuvent se trouver représentées par les gouvernements sociaux-démocrates.
Oui, les indices, enfin, ou les signaux en sont multiples. Hein. D'une part, déjà, la progression, malheureusement, du Front National dans des couches populaires et auprès d'un électorat populaire traditionnel, que ce soit dans la région de Marseille, que ce soit dans le Nord et Pas-de-Calais, etc. D'autre part, il y a l'affaiblissement, quand ce n'est pas la rupture des liens entre les partis politiques, ceux qui ont gouverné notamment au nom de la gauche, et les organisations sociales, syndicales ou associatives, qui fait qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un mouvement très fort, le PS, par exemple, est aux abonnés absents, ou en tout cas n'a pas d'outils correspondants. Alors peut-être que l'apparition de Bernard Thibault au congrès du PS fait partie d'une stratégie de reconquête ou au moins de différenciation des partenaires syndicaux. On verra ça dans la suite. Mais c'est indiscutable. C'est-à-dire, rien n'a compensé, du point de vue du Parti socialiste, aujourd'hui largement hégémonique à gauche, l'affaissement social et militant du Parti communiste. Bon, et puis il y a des secteurs entiers qui sont en rupture. Je crois que les enseignants, bien avant la grève du printemps, n'avaient pas oublié quand même les responsabilités d'Allègre dans la préparation du terrain aux réformes Ferry, etc., etc. Donc il y a cette fracture. Et enfin, il y a des phénomènes sociologiques. Je terminerai par ça. Dans la composition même d'un parti comme le Parti socialiste, d'abord, c'est un parti relativement petit, c'est ironique que ce soit moi qui le dise, mais enfin, s'il tourne autour de 140 000 cartes pour un parti qui gouverne et entend gouverner, c'est comparé d'ailleurs aux partis de gauche traditionnels en Europe, c'est très peu.
Oui, mais c'est un peu... historiquement, en France, ça a toujours été le cas.
C'est historiquement vrai, mais alors s'ajoute à ça que c'était un parti minoritaire, mais qui représentait un certain sens de l'État et de la fonction publique, souvent. Alors que là, par le jeu des privatisations, maintenant, il y a une fusion organique, pratiquement, des élites de la gauche gouvernante et du secteur privé. Les va-et-vient de Martine Aubry entre direction d'entreprise et gouvernement. Le Strauss-Kahn, fondateur du Club de l'Industrie, en sont les symboles. Ce qui fait... C'est pas pour les dénoncer. Enfin bon, par ailleurs, je peux les dénoncer. Mais ce qui fait que, vu ces mutations dans la social-démocratie, notamment française, il devient difficile d'imaginer, au-delà de la rhétorique et des discours, un véritable changement d'orientation qui supposerait pratiquement de détricoter tout ce qu'ils ont fait dans le sens libéral depuis 20 ans.
Mmh, d'accord. Je vous propose en fait peut-être de poursuivre à partir de votre livre là, que j'ai lu avec attention.
Je suis à votre disposition. Je vous remercie de l'invitation.
Non, c'est nous. Après cette présentation un peu de votre ouvrage, où vous revenez justement sur qu'est-ce qui a pu conduire à cet événement du 21 avril 2002. Vous plaquez un certain nombre d'analyses, notamment votre premier chapitre s'appelle « Le dérèglement du monde ». Et donc après avoir rappelé rappeler que dans les années 90, on a assisté, on a subi un accroissement des inégalités sociales, un repli de l'État social sur l'État pénal, des privatisations, tout ce genre de choses. Vous faites un retour en arrière sur les concepts un peu fondamentaux du marxisme et sur ce qu'est aujourd'hui le capitalisme, sur ses bases un peu, sur quoi il se fonde. Et notamment, vous insistez beaucoup sur cet aspect explicatif sur le procès du capital, c'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui signifie la marchandise, la valeur dans la production des marchandises, dans la sphère marchande telle qu'elle fonctionne de nos jours. Et c'est justement peut-être quelque chose d'intéressant et qu'on n'entend plus peut-être aussi de la part des théoriciens, des gens de gauche, des leaders même politiques qui sont sensibles justement, qui devraient mettre en avant ces mécanismes de déconstruction de la sphère marchande et des rapports d'exploitation. Vous faites un retour justement sur ce que Marx appelait le fétichisme de cette marchandise, de cette marchandisation du monde. Et donc ma question c'est souhaitable et est-ce que c'est possible aujourd'hui, est-ce que c'est audible aujourd'hui de la part de syndicalistes ou de militants politiques de pouvoir revenir, de travailler sur cette
question ? Oui, je crois tout à fait. Bon, alors, pour aller vite, on est dans une double logique de guerre à l'échelle planétaire, une guerre impériale avec les interventions et occupations diverses, à commencer par celle de l'Irak. Et le corrélat ou l'autre face de cette guerre impériale, c'est la guerre sociale. On est aujourd'hui devant une deuxième vague des réformes libérales, celle des années 80 n'avait pas suffi. Et aujourd'hui, on le voit avec la succession des mesures Raffarin, c'est une offensive qui vise à démanteler ce qui a pu subsister, plus ou moins, d'État social ou de ce fameux pacte social. Alors, par rapport à ça, bon, les protestations, quand vous me demandez si une analyse... Parce que mon souci, c'est de dire, au-delà des refus et des résistances, il faut aller à la racine des choses et voir pourquoi ce système est aussi malade et aussi déréglé. Est-ce que c'est audible par des syndicalistes, des grévistes, des intermittents du spectacle? Je crois que, oui, et c'est pas une illusion ou un souhait, ça s'appuie sur le développement et finalement très accéléré de prise de conscience qui s'est produit. Il faut rappeler tout de même que Seattle, c'était en 99, il n'y a même pas 5 ans, et toutes les thèmes qui sont apparus dans les forums sociaux, le monde n'est pas une marchandise, un autre monde est possible, c'est pas traité en termes théoriques, mais c'est bien sur cette piste-là que s'orientent les recherches. Or, les deux exemples que je prends me paraissent sensibles et convaincants. Le capitalisme en question, pour être complètement schématique, ce qu'il caractérise la production marchande généralisée, c'est que la mesure de toute chose, de toute richesse, y compris des rapports entre humains, est réduite à la mesure abstraite d'un temps de travail abstrait. Bon, alors, c'est un peu abstrait pour le coup. C'est la fameuse loi de la valeur, qui est la pierre angulaire, à mon avis, de la critique marxiste du capitalisme. Et on voit que la loi... Alors, les gens disent qu'il y a une crise des valeurs. Non, la loi de la valeur, oui, est en crise. Et la crise s'illustre de deux manières les plus éclatantes. D'une part, cette mesure, par le temps abstrait, arrive de plus en plus mal et au prix de plus en plus de dégâts sociaux à mesurer les échanges entre êtres humains, notamment du fait de l'incorporation d'un travail intellectuel ou d'un travail social accumulé dans le travail présent. Et évidemment, ça rend cette mesure par l'horloge ou par la pointeuse de plus en plus misérable et inadéquate, alors que, contrairement à ce qu'on prétendait, elle reste la règle sociale. Les patrons se battent pour des droits de pause, des pauses pipi, des pauses café à la minute près. Et même le débat sur les retraites, sur le temps de travail, sur le prolongement... On voit bien que ça reste la mesure sociale numéro un, alors qu'elle est de plus en plus facteur d'irrationalité. Et de la même manière, cette mesure par la valeur marchande n'est pas une base permettant de réorganiser les rapports de la société à son environnement naturel et à ses conditions naturelles de reproduction. On ne peut pas mesurer en temps d'horloge les dégâts infligés à la nature, les effets de la déforestation ou de la pollution des eaux et des modifications climatiques sur des siècles. Donc il y a là une contradiction qui est, pas la seule, mais la principale racine de cette montée en puissance des violences, des exclusions, des souffrances sociales qui est malheureusement notre lot quotidien.
Et donc par rapport à précisément ce constat, ce que vous développez, ça va être de mettre en avant une des questions sur cet au-delà du capital. Et par rapport à ça, vous faites tout de suite rapidement un sort à toute une série de théories qui sont notamment illustrées par le bouquin de Hart et Negri, Empire. Que je n'ai pas lu, mais dont vous faites la critique en l'assimilant à une sorte de volonté sous le terme de multitude, de concept de multitude, des identités multiples, diverses, qui ne s'inséreraient pas dans dans un projet de lutte politique globale. C'est un peu ça le sens ?
C'est un peu ça. Bon, ceci dit, c'est une polémique qui reste fraternelle avec Negri et Hart. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudra la poursuivre parce que j'ai lu depuis le petit livre de Paolo Virno qui s'appelle Grammaire de la multitude, qui est sorti en français, et qui me paraît finalement plus clair dans son propos et en même temps même plus rigoureux théoriquement, d'une certaine manière. Bon, mais ceci dit, je crois que la notion de multitude a une valeur descriptive. Elle peut rencontrer un écho parce que, d'une part, beaucoup de gens comprennent les intermittents ou ce que vous évoquiez tout à l'heure avec les livreurs de pizza, etc., spontanément aurait aujourd'hui le plus grand mal à s'identifier à la notion de classe ouvrière. Bon, il y a un jeu de représentation et d'image qui fait que la diversité actuelle du salariat se reconnaît pas forcément dans des définitions dites de classe, etc. Ce que convient d'ailleurs toutes les enquêtes sociologiques. Mais à ça se sont ajoutés aussi les effets d'une dévalorisation, d'ailleurs pas mal orchestrée par les médias, où se définir et s'assumer comme travailleur, a fortiori comme ouvrier, était devenu quasiment un élément de honte sociale et non pas quelque chose de revendicable. Donc, descriptivement, pour rendre compte de la complexité des métiers, des travaux, etc., le concept ne me gêne pas. Alors après, c'est à quoi il peut servir stratégiquement. Moi, je pense que... Alors, Virno, d'ailleurs, que j'évoquais, lui... dit clairement qu'en fait c'est une forme d'actualisation ou de modernisation des notions de classe, qui rend compte davantage de la diversité interne, mais ceci dit, même quand on parlait de prolétariat, ça n'a jamais été une classe monolithique, composée autour de secteurs, de pôles de combativité qui ont servi de référence, les cheminots, les mineurs, les métallos selon les époques, etc. Donc il y a ça. Mais moi, je tiens à la notion de classe pour des raisons théoriques, d'une part. Deuxièmement, pour une autre raison, c'est que je pense que c'est celle qui peut s'opposer le plus efficacement, parce qu'elle évoque certaines formes de solidarité, aux appartenances qui sont aujourd'hui à l'offensive de type ethnique, tribal ou religieuse. Et ce qui reste quelque chose d'important. Et puis enfin, parce qu'elles tendent à unifier ces notions de lutte de classe, à unifier des revendications qui sont très très diverses et toutes légitimes, mais qui ne se résolvent pas par une énumération. Alors on dit, il y a les revendications économiques, il y a les revendications culturelles, les revendications féministes, écologistes. Mais pourquoi ces revendications devraient-elles converger ? Et je crois que le grand unificateur de toute cette multitude, pour reprendre le terme de mouvement, c'est le capital lui-même. C'est que toutes ces luttes se heurtent à une logique qui est une logique de système, qui est une logique systémique et non pas une addition de malaise, de souffrance ou d'oppression. Il y a bien une forme d'unité de ce système, et si on veut le renverser, il faut penser cette unité.
Mmh. Oui, c'est bien comme ça que, enfin, on sent bien ça dans la lecture de votre.
Tant livre. Mieux. Si.
C'est justement ce souci non plus de rompre un peu avec le schéma un peu vieillot d'un marxisme déterministe pour justement le repenser en termes de stratégie et de mettre en avant un peu. Vous citez les travaux de Thompson et P. Thompson là, sur la façon dont
la formation de la classe ouvrière anglaise. Comment une classe. Et pas seulement une espèce d'enregistrement sociologique, mais c'est aussi la construction, à travers des luttes, d'un discours, d'un système de valeurs, d'une culture, de champs, de pratiques sociales, etc. Donc c'est un processus dynamique et non pas une photographie sociologique. Ça me paraît important.
Oui. Et une chose, enfin, là aussi, quand je suis tombé sur ce passage, ça m'a un peu surpris, c'est vous faites une sorte de réhabilitation du concept de surdétermination chez Althusser. Vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi ce terme, ce concept de surdétermination, qu'est-ce qu'il signifie
ah oui,
chez vous?
Il doit paraître un peu barbare aujourd'hui. Mais
aujourd'hui, ça fait un peu drôle de trouver ça.
Non, mais c'est que, moi qui n'ai jamais été althusserien, mais je trouve que c'est une idée qui était féconde, c'est que justement par rapport à toute forme de mécanisme qui tente de déduire tous les rapports sociaux et leurs conflits, et des rapports économiques ou des rapports d'exploitation dans l'usine, Althusser disait que ces rapports surdéterminent, ce qui veut dire qu'il y a d'autres déterminations qui surplombent et façonnent, si on veut, mais sans abolir toute une série de contradictions qui peuvent être des contradictions de sexe, de génération, etc., etc., ou même des contradictions spatiales entre des régions liées au développement inégal. Peut-être qu'on pourrait le dire plus simplement, mais la notion me semble utile pour aborder l'emboîtement ou la complexité des contradictions à l'œuvre dans nos sociétés modernes.
Oui, car justement, face à cela, peut-être, ce constructivisme, je ne sais pas si on peut employer le bon terme, vous faites aussi également un sort à tous ceux, enfin toutes celles qui partent des travaux sur la déconstruction des représentations. Vous pouvez citer notamment Judith Butler, la philosophe américaine, et là encore, des travaux qui sont très à la mode, très, très prégnants aujourd'hui dans les sciences sociales. Là aussi, quelle est votre démarche justement par rapport à ce type de...
Je vois, mais Judith Butler, d'abord, on commence, et c'est très heureux à l'éditer en français, parce que je crois que c'est un auteur important. Que j'avais eu l'occasion de lire bien avant, et notamment dans la critique du symbolique, dans un usage critique de la psychanalyse, je crois que c'est un apport très intéressant. Ce contre quoi je mets en garde, c'est plus qu'une polémique, c'est ce qu'on a appelé aux États-Unis, peut-être dans moins de mesure en France, le tournant culturel ou le tournant linguistique, qui met l'accent essentiellement sur les constructions de langage. Alors évidemment, ça implique une distance entre les mots et la réalité, entre les mots et les choses, comme disait l'autre. Un concept, ça c'est pas une découverte. Hein. Je rappelle la fameuse phrase que tous les apprentis en philosophie apprennent par cœur chez Spinoza. Le chien aboie, le concept de chien aboie pas. Donc les mots sont pas la chose. Mais une fois qu'on a dit ça, pour que les mots aient un sens et soient utiles, il faut bien qu'ils gardent un lien de quelque nature. Et quand on parle de classe, bien sûr, le concept est une construction théorique, des auteurs s'y sont attelés, c'est l'objet d'une controverse, mais cette controverse n'est utile et les mots eux-mêmes ne sont utiles que si ça renvoie à une certaine forme effective des rapports dans la société. Donc, autrement dit, on n'est pas uniquement dans un monde de jeux de mots et de langage, il faut bien, à un moment donné, retourner et repasser par le réel.
Très bien.
Ah, pauvre Bourdieu. C'est pas une maladie d'être intellectuel.
Les grains de sable. Article de Pierre Bourdieu, paru dans Télérama, 4 octobre 2000. Les grains de sable. Si je dis que la culture est aujourd'hui en danger, qu'elle est menacée par l'empire de l'argent et du commerce et de l'esprit mercantile aux multiples visages, audimat, enquête de marketing, attente des annonceurs, chiffres de vente, liste des best-sellers, on dira que j'exagère. Si je dis que les politiques qui signent des accords internationaux réduisant les œuvres culturelles au sort commun de produits sans qualité, justiciables des lois qui s'appliquent au maïs, aux bananes ou aux agrumes, contribuent, sans toujours le savoir, à l'abaissement de la culture et des esprits, on dira que j'exagère.
Ah, pauvre Bourdieu.
Si je dis que les éditeurs, les producteurs de films, les critiques, les diffuseurs, les responsables de chaînes de radio et de télévision, qui se plient avec empressement à la loi de la circulation commerciale, celle de la chasse aux best-sellers ou aux vedettes médiatiques et de la production, et de la glorification des succès à court terme et à tout prix, mais aussi celle des échanges circulaires de concessions et de complaisances mondaines, si je dis que tout cela collabore avec les forces imbéciles du marché et participe à leur triomphe, on dira que j'exagère. Et pourtant, si je rappelle maintenant que les chances d'arrêter cette machine infernale reposent sur tous ceux et celles qui, tenant quelque pouvoir sur les choses de culture, d'art et de littérature, peuvent, chacun à leur place et à leur façon, et pour leur part, si minime soit-elle, jeter leur grain de sable dans le jeu bien huilé des complicités résignées, et si j'ajoute enfin que ceux et celles qui ont la chance de travailler à Télérama, pas nécessairement dans les positions les plus éminentes ou les plus visibles, seraient, par conviction et par tradition, parmi les mieux placés pour le faire. On dira peut-être, pour une fois, que je suis désespérément optimiste. Et pourtant. Les grains de sable. Article de Pierre Bourdieu, paru dans Télérama, 4 octobre 2000.
Alors c'est important pour se défendre, quand quelqu'un vous dit dans un débat, vous dites, oh là 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 là, dites-vous, ah, il me dit ça, quel déterminant social, quelle raison sociale il a de me dire ça? Si c'est un curé qui nous dit, sans la religion, il n'y a pas de salut, oui, on voit bien, c'est son job qui en dépend. Bon. Je simplifie, je caricature un peu, mais il y a souvent de ça, c'est une loi simple, mais très utile comme instrument de self-défense. Et je dis souvent, la sociologie est un sport de combat. Hein. C'est un sport de combat, ça sert surtout...
La sociologie, c'est un sport de combat.
Oui, c'est un sport de combat, un sport de combat, on s'en sert pour se défendre. Essentiellement, et on n'a pas le droit de s'en servir pour faire des mauvais coups. C'est que...
Merci Pierre Boudur.
Voilà quelques extraits de Pierre Bourdieu et une lecture d'un texte qu'il avait publié dans Télérama. On est toujours avec Daniel Ben Saïd. Dans votre livre, Daniel Ben Saïd, Un monde a changé, vous revenez un peu sur le cas Bourdieu. Vous revenez un petit peu sur son parcours en tant qu'intellectuel, mais aussi sur le sort qui lui a été réservé, puisque vous expliquez qu'en retournant les outils savants contre le monde savant, le monde possédant, contre les politiques, il s'est mis en opposition avec ce monde-là, et que ça a un petit peu créé... Quoi, enfin, vous revenez un peu sur la mise à l'index qui lui a été faite. Est-ce que Pierre Bourdieu, en tant qu'intellectuel, en tant que sociologue intervenant dans le champ politique, c'est un modèle? Qu'est-ce que ça vous inspire comme...
En tout cas, un modèle, je ne sais pas. En tout cas, c'est un signe positif, puisque ça a marqué une évolution de Bourdieu qui, au nom justement de la rigueur scientifique et des rigueurs disciplinaires de la sociologie... était resté plutôt en réserve à des moments, par exemple comme 68, mais pas par lâcheté, mais par théorie finalement. C'est-à-dire que l'engagement dans la mêlée était incompatible avec l'astreinte du travail scientifique et savant. Bon, le tournant, je crois que ça correspond assez bien, le date de la publication en 1993 de « La misère du monde », mais visiblement, c'est aussi sous l'effet de la dégradation de la situation, du développement de la crise sociale, de cette fameuse machine infernale qu'il se demande comment arrêter, que Bourdieu a été de plus en plus présent dans les luttes des dernières années de sa vie, depuis les grèves de 95, mouvement altermondialiste, etc. au prix d'ailleurs d'une difficulté dans sa propre pensée, parce qu'il a jamais bien résolu justement cette double contrainte du scientifique qu'il voulait rester et de l'engagement. Par exemple, il récusait, je m'en explique, je crois, dans le bouquin, une vieille notion d'intellectuel organique. Alors, je crois qu'il y a un malentendu, c'est une formule qui a été surtout, je crois, popularisée par Gramsci, mais qui entendait par là qu'à chaque période, il y a des intellectuels qui lient leur sort et qui sont liés de fait à l'expression, à la réflexion, à la pratique de classe ou de couche sociale en développement. La bourgeoisie a eu ses intellectuels organiques au XVIIIe siècle avec la philosophie des Lumières. Le mouvement ouvrier en a eu beaucoup au début du XXe siècle, fin du XIXe, etc. Ça ne veut pas dire se mettre au service d'un parti. Peut-être que c'est ce qui gênait Bourdieu avec l'image d'instrumentalisation des intellectuels qu'a donné le PC, et peut-être à travers des images très discutables comme celle d'Aragon. Mais je crois que non, qu'on peut s'astreindre à un travail théorique qui soit rigoureux, qui soit honnête, et un engagement politique. Et peut-être la manière d'ailleurs la plus honnête, c'est de ne pas masquer cet engagement, d'annoncer la couleur d'où on parle. Ben, au moins, on le sait, et accepter la critique en retour, bien évidemment. Enfin, ceci dit, je crois que l'évolution de Bourdieu, effectivement, elle a déchaîné les dernières années des foudres contre lui. Et ce qui était visé à travers lui, chez les plus savants, sa sociologie, on pourrait en discuter, mais souvent dans les polémiques qui sont développées avec le bouquin de Védresse-Leroux, etc., c'était assez secondaire. Ce qui était visé surtout, c'était le fait que Bourdieu avait donné finalement une tribune et ouvert la fenêtre que les mouvements sociaux avaient commencé à entrebâiller en 95. Je crois que c'est ça qu'on voulait lui faire payer. Et dans ce cas-là, sans être un bourdieusien fanatique, je trouve que son apport est tout à fait intéressant et utile aujourd'hui et demain, mais il fallait être résolument anti-Bourdieu.
Parce que la problématique que se posait Bourdieu, c'est de quelle légitimité on peut se targuer, oui, quand on intervient en tant qu'intellectuel sur un champ, sur un domaine qui est pas le sien propre. Si on n'est pas sociologue du travail, est-ce qu'on peut se permettre de parler sur le travail? Et quelle légitimité j'ai plus qu'un postier ou que voilà, c'est un peu la manière dont il semblait aborder cette question.
Mais là-dessus, je suis d'autant plus d'accord que, étant, en termes de raison sociale, enseignant en philosophie, la philosophie est encore plus indéfinissable et hypothétique comme discipline que la sociologie. Donc, si moi je m'exprime publiquement, et je crois que Bourdieu pouvait en faire autant, c'est pas parce que mon titre d'enseignant en philosophie donnerait une quelconque supériorité ou compétence ou autorité à se prononcer sur les lois sociales ou la crise économique. Bon, on peut utiliser, je crois que c'est autre chose, à condition de le savoir et de le maîtriser, un certain capital symbolique pour intervenir en tant que citoyenne, tout simplement. Mais c'est une parole qui pèse pas plus lourd que celle d'un militant syndicaliste ou d'une militante associative. Bon, voilà, le problème, c'est qu'évidemment, j'aurais plus de chances de publier une tribune dans Le Monde ou dans Libé que Tartampion. C'est regrettable, mais la seule question que je me pose dans des situations comme celle-là, est-ce que c'est utile? On est toujours un peu la Libye et la caution dans ce cas-là. Le jeu des tribunes, évidemment, une mise en scène de pluralisme qui est en partie bidonnée. Bon, le prix, c'est ça. C'est de légitimer l'agora médiatique. Alors certains le récusent, c'est le cas d'Alimi, etc. Moi, ce n'est pas mon problème. Je suis militant, syndical, politique, mes appartenances sont connues. Si je peux disposer d'une tribune, je le fais, pas n'importe laquelle. Hein, mais alors, je crois que Bourdieu, là-dessus, était prisonnier quand même d'une certaine idée très haute de la scientificité des sciences humaines, qui me paraît quand même assez discutable. L'idée qu'il y ait un tel partage, et ça a mené à un certain aristocratisme dans toute une période, c'est ça qui était une contradiction, parce que finalement, il reproduisait la vieille figure depuis Platon du philosophe face au sophiste. Le sophiste, c'est le fabricant d'opinions qui vend ses services, sur la place publique, alors que le philosophe, lui, a une sorte de privilège et de monopole de vérité. Bon, d'une certaine mesure, Bourdieu hissait le sociologue au rang du philosophe platonicien, quoi qu'il ait dit d'ailleurs sur la philosophie qui n'était pas sa tasse de thé. Alors que je crois que Bourdieu est aussi bon philosophe que sociologue. Hein, ses textes sur les méditations pascaliennes ou sa critique de Heidegger sont d'excellente qualité. Mais je crois qu'il était un peu empêtré dans cette histoire-là. Une fois qu'on a établi une telle frontière entre science et opinion, comment jouer les passe-frontières, ça devient difficile. Et pourtant, il faut être des passeurs.
Alors, au moins, ça aura eu la vertu d'obliger un certain nombre d'intellectuels à s'interroger sur leur propre pratique médiatique, de savoir où était la frontière de la légitimité de la parole. Enfin, je trouve que malgré tout, ce type de réflexion et de positionnement a contraint beaucoup d'intellos à réfléchir à leur positionnement.
Oui, à contribuer. Hein. C'est quand même une question récurrente. Je ne veux pas minimiser le rôle et le mérite de Bourdieu. Mais Foucault avait quand même beaucoup traité le problème, d'ailleurs peut-être de façon un peu schématique, en percevant le déclin de l'intellectuel généraliste, grande conscience morale, de Zola à Sartre, etc., au profit de ce qu'il appelait les intellectuels spécifiques, ou Blanchot dans son petit texte sur le problème des intellectuels. Enfin, c'est une interrogation récurrente qui s'est posée différemment à partir justement du moment où les intellectuels ont voulu s'instituer savants et ont cherché une crédibilité scientifique équivalente à celle de leurs collègues physiciens ou biologistes. Mais bon... le Bourdieu a contribué à relancer, sûrement à renouveler l'interrogation.
Alors Guillaume, tu voulais revenir sur la pratique d'un nouvel internationalisme.
Oui, en fait, on va peut-être y revenir un peu plus loin. On va continuer vite fait pour passer ensuite à l'actualité politique en ce moment. Mais continuez sur votre bouquin. Je m'arrête à chaque fois sur un peu les auteurs que vous mettez en avant.
Je vais passer pour... pour un flingueur.
Non, mais en fait, ça permet d'éclairer.
Non, mais la polémique fait partie effectivement, c'est une forme de dialogue.
Non, mais justement, ça permet d'éclairer un peu votre point de vue à vous par rapport justement aux différents courants de pensée qui existent aujourd'hui, et notamment Holloway, que je ne connaissais pas, mais qui apparemment est un théoricien anarchiste lu et connu en ce moment. Et. On parle d'Anar et de Trotsky, c'est la grande question toujours qui tourne autour de ces courants de pensée, c'est celle du pouvoir, du parti, de l'État. Et Holloway, apparemment, dans sa démarche de théoricien anarchiste, prendrait une tactique de dissolution du pouvoir. Il voudrait... Il voudrait... Comment il tourne sa phrase ?
Que voudrait Holloway ? Dites-nous.
En tout cas, le titre de son livre résume son propos. Hein, c'est changer le monde sans prendre le pouvoir. Alors, involontairement, mais ça ne me gêne pas, tant mieux. Je suis pour que avant tout que le débat existe, j'ai fait involontairement pas mal de publicité à Holloway, puisque du coup le Nouvel Observateur plus récemment le Figaro Magazine en font un petit peu le théoricien ou l'idéologue de ces nouveaux mouvements sociaux, inclus d'ailleurs les manifs du Larzac de cet été, hein, dont personne, je pense, ou très peu connaissait le nom de Holloway. Mais comme Marcuse a été un petit peu, est devenu le symbole de certains courants de pensée avant 68, maintenant Holloway serait un petit peu l'expression de ces mouvements sociaux qui se refusent à disputer le terrain politique, a fortiori électoral, et à se poser la question du pouvoir. De ce point de vue-là, on peut dire effectivement que c'est un penseur qui pourrait se rattacher aux familles libertaires. Avec une nuance, c'est que lui se présente surtout comme un peu l'interprète théorique des expériences zapatistes au Chiapas, etc. Bon, légitime ou illégitime, ça, je ne rentre pas dans ce débat-là. Mon opinion sur le... Alors, il a eu effectivement un succès. Le livre paraîtra, il est annoncé chez Sileps en janvier ou février en français. Il a eu surtout un succès relativement important en Amérique latine et en particulier en Argentine, parce que je pense que c'est un propos qui reflète assez bien un sentiment de la situation. C'est-à-dire qu'en Argentine, vous avez 2 ans de mobilisation sociale. On peut difficilement imaginer plus. Et en même temps, une traduction politique très faible. Pour aller vite, on se retrouve aux élections présidentielles avec 2 candidats péronistes au deuxième tour. Donc, avec 80% de participation, il y aurait eu 50% d'abstention, je dirais. Et donc, Holloway, finalement, organise ou met en discours organisé et conceptuel ce sentiment d'avoir un problème qu'on n'a pas les moyens de résoudre aujourd'hui et donc dont il faut se débarrasser puisqu'on ne peut pas le résoudre, qui est le problème du pouvoir, le problème de l'État, etc. Ce en quoi, évidemment, c'est pour moi un désaccord majeur. Beaucoup des choses qu'il dit sont justes, que toutes les expériences ou les organisations ont fini par se modeler sur le modèle étatique, à en reproduire les travers bureaucratiques, etc. Tout ça est vrai, mais c'est pas en niant la difficulté qu'on la résout. Et c'est pas en faisant d'impuissance vertu qu'on résout le problème. On peut dire que le problème du pouvoir ne se pose plus. Bon, mais il nous rattrapera, inévitablement, que ce soit au Chiapas, tant que le rapport de force permet des zones plus ou moins autonomes, tant mieux. Je pense que résister, même si on ne sait pas où va la résistance, est un impératif quasi catégorique. Mais on voit très bien aujourd'hui, dans le monde, que les rapports de pouvoir, et notamment l'hyperpuissance des impérialismes dominants, est bel et bien là. Donc, et qui plus est, armé jusqu'aux dents ou jusqu'aux étoiles. Donc, je crois que c'est dangereux. Ce n'est pas un problème de piété théorique sur des textes classiques, etc. Mais c'est dangereux. Toutes les expériences du siècle, tout récemment d'ailleurs, le rappel commémoratif ou remémoratif du coup d'État au Chili, Holloway dit même pas qu'il faut opposer pouvoir et contre-pouvoir. Parce qu'il dit contre-pouvoir, c'est encore un pouvoir. Donc, il prêche l'anti-pouvoir, la dissolution. Donc, vous avez dit d'accord, mais enfin, ça, c'est de l'ordre de la baguette magique. Je ne connais pas d'organisation qui, d'une manière ou d'une autre, ne développe pas des pratiques ou ne reconstitue pas des rapports de pouvoir, même la plus libertaire. Alors le problème, il est enraciné dans la division du travail, il faut la dépasser, tout le problème est commun, mais tant qu'il y aura division de travail intellectuel, manuel, etc., on aura ces rapports de pouvoir, voire de bureaucratisation qui se développent. Donc je crois qu'il faut au contraire voir comment on peut s'attaquer à ce problème-là plutôt que le proclamer résolu quand il ne l'est pas. Voilà l'essentiel, enfin en tout cas le noyau de la controverse.
Oui, et peut-être derrière ça, c'est une sorte de dénigrement de la politique que vous analysez dans ce type de démarche, quelque sorte.
De fait, parce que dire ça, alors le pouvoir est-il soluble dans l'anti-pouvoir ? Moi, je crois qu'il y a deux questions que Holloway confond. Une, c'est la question de l'État. L'État est un appareil spécifique qui a des figures historiques tout à fait particulières et que cet appareil, comme appareil d'oppression et de domination, est, selon la vieille formule d'ailleurs communiste, à détruire, inspiré de la Commune de Paris. Les rapports de pouvoir sont beaucoup plus, relèvent plus de la longue durée. Et je dirais, pour introduire une nuance, la machine d'État est à détruire, les rapports de pouvoir sont à défaire ou déconstruire. Ils existent déjà dans les relations individuelles, dans les rapports de sexe, dans les rapports amoureux, etc. Autant on peut exproprier le capital par un décret ou par une loi, on ne changera pas le complexe d'Oedipe et bien d'autres choses dans les mentalités par décret. Là, on est dans l'ordre d'une déconstruction-reconstruction, croire que c'est une affaire de décision, je crois que c'est une diversion par rapport à l'énoncé réel du problème. Alors bon, voilà. Alors effectivement, ça peut conduire, et je crois qu'on l'a déjà payé cher, Holloway n'est pas responsable, en Argentine, où il était possible qu'il y ait une dispute, y compris une expression politique et électorale de ces mouvements sociaux. Bon, les gens qui auraient pu porter cette aspiration s'y sont dérobés. J'en connais certains personnellement et je les estime. Je peux comprendre pourquoi ils se sont dérobés, hein. En habillant ça un petit peu du discours de Holloway. Mais se retrouver, encore une fois, avec deux candidats péronistes, c'est plutôt un sentiment d'échec par rapport à la force du mouvement. Puis on voit ici que si on ne dispute pas le terrain politique, alors politique, ce n'est pas seulement électoral, mais ça l'est aussi au Front national, on peut avoir des mouvements sociaux très forts, qui n'empêchent pas des défaites, privatisation de France Télécom, la réforme Juppé, etc. Et tout le dépit ou la désillusion est engrangé par une droite extrême. Donc je pense au contraire, dire qu'on peut faire exister de façon non marginale une alternative aux politiques d'une gauche qui est de plus en plus une gauche du centre, si ce n'est une gauche de droite, ça me paraît effectivement un enjeu. Et d'une certaine manière, les propos de Holloway tournent le dos à cette question-là.
Donc en fait, c'est bien cela, c'est les luttes, les crises, les faillites, sont des choses qui sont incontournables, qu'il faut assumer et qui font partie en fait des enjeux politiques, des enjeux stratégiques quand on mène un combat contre le capitalisme.
En tout cas, jusqu'à ce jour, l'histoire a fonctionné à coups de crises, de guerres, de révolutions, et malheureusement, rien n'indique que cette période tumultueuse s'achève, bien au contraire. Alors les guerres changent de forme, c'était le propos du précédent bouquin, enfin, un aspect sur le nouvel internationalisme, et les crises, pas seulement économiques. Tout le problème, c'est comment transformer des crises économiques et sociales en crises politiques, justement, où les alternatives sont en présence et tendent vers un dénouement paroxystique. Ça a été le cas en Indonésie en 65, au Chili en 73, en Espagne en 36. Ça prendra d'autres formes. Mais en tout cas, cet horizon de crise, lui, ne peut pas être ignoré ou mis entre parenthèses.
Et justement, précisément, vous continuez donc votre propos et vous parlez justement de ce rôle important que vous donnez au parti. Et notamment, vous faites un retour à Lénine, à ses textes théoriques. Vous parlez à un moment de transfiguration du prolétariat. Donc, en fait, c'est un peu ça, c'est ce balancement constant entre une analyse justement des rapports sociaux actuels, des luttes syndicales, enfin des références à la lutte altermondialiste, et ce vieux fond théorique marxisant qui est, en fait, il y a une sorte de balancier, j'ai l'impression, un peu dans vos textes, qui fait qu'on a du mal à savoir si, de quel côté finalement vous penchez.
Mais je crois que le balancier, il n'est pas... Je dirais un mot sur Lénine éventuellement, mais le balancier n'est pas dans les textes, il est dans la réalité, il est dans le fait qu'il y a une vraie complémentarité, mais ça c'est peut-être plus fort aujourd'hui, mais pas très nouveau, entre la politique qui s'invente, parce que c'est de la politique dans les mouvements sociaux, hein, quand on revendique une forme de citoyenneté pour les sans-papiers ou d'égalité des droits entre les sexes, des rapports de gratuité dans certains services sociaux, etc. Les mouvements sociaux, les syndicats et autres inventent de la politique. Bon, maintenant, ils luttent sous des formes sur un terrain particulier. Les partis politiques n'ont pas une position de surplomb ou un privilège par rapport à ces mouvements sociaux, mais ils mènent cette lutte sur un terrain particulier qui a ses structures, qui a son langage, qui est le terrain politique et où... Là, je dis que Lénine, effectivement, était une sorte de psychanalyste avant l'heure, qui dit justement, les luttes politiques ne sont pas le simple reflet des conflits sociaux, il les transfigure dans un langage, dans des jeux d'alliances. Finalement, c'est un terrain spécifique. Bon, ça, j'en reste convaincu. Et si, je fais une défense de Lénine, là aussi c'est pas par piété, c'est que je pense qu'il est victime d'une grande injustice, et surtout il est plus lu, alors que c'est une pensée politique extrêmement complexe à mon avis, qui mériterait d'être redécouverte, et redécouverte dans la nuance. Bon, mais on n'a pas le temps là de l'aborder. Seulement un mot pourquoi ces débats-là aujourd'hui. Moi c'est une des choses qui me paraît les plus frappantes et en même temps pour moi les plus intéressantes des deux, trois dernières années, à cause de la faillite d'Enron, de la crise argentine, du 11 septembre, etc., etc., et de la guerre, évidemment, c'est un retour sur le tapis du débat qu'on aurait appelé un débat stratégique. Quel pouvoir, le prendre ou ne pas le prendre, comment le prendre, avec quels acteurs, etc. Dans les années 80, on était tellement le dos au mur que finalement, ce qui occupait le terrain, c'était l'impératif de résistance. Et vous en trouvez les échos chez Negri, chez Badiou, etc. Aujourd'hui, l'interrogation renaît à cause des expériences, des difficultés ou des impasses de certains mouvements sociaux, d'expériences en cours comme celle du Brésil. Donc, et des textes comme ceux d'Holloway, de Negri, de Virno, etc., sont autant d'indices de cette renaissance d'un débat stratégique, dans des termes un peu différents des années 70, mais ça c'est logique. Et je crois que c'est très important que ce débat ait lieu autour ou à propos des forums sociaux, etc., de faire vivre cette discussion-là, qui fait partie aussi de la sortie du trauma et du désencanto politique des années 80.
Bon, on va y venir tout de suite après une petite pause.
Just a boy, faring stranger, traveling through a world of woe. Ain't no sickness, toil, nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my father, said he'd meet me when I come. I'm only going over Jordan, I'm only going over home. I know dark clouds gonna gather around me.
Voilà, de retour sur le plateau des Oreilles Loin du Front avec Daniel Ben Saïd. On parle beaucoup aujourd'hui du livre « Un monde a changé, mouvement et stratégie ». C'est donc publié aux éditions textuelles. Alors, je ne pense pas qu'on va avoir le temps pour aujourd'hui d'aller jusqu'au bout de l'exploration qu'on avait commencé un petit peu des diverses choses abordées dans ce livre. Mais enfin bon, c'est... Alors, je ne sais pas, vous vous sentez seul un peu dans ce retour à une rigueur théorique et politique. Enfin, peut-être pour vous, c'est pas un retour d'ailleurs. Non, ou est-ce que vous sentez qu'il y a un mouvement un peu de retour à ce travail un peu rigoureux et de radicalité politique.
Au texte fondateur.
Non, mais c'est pas un problème de retour au texte fondateur. Encore qu'évidemment, je reste convaincu qu'on ne fait jamais. table rase en matière et qu'on repart pas à zéro. Quoi. C'est d'ailleurs, il y a une suite de la polémique avec Holloway dans le dernier numéro 8 de la revue Contretemps. Il m'avait envoyé un texte de réponse. Et là, lui explique justement que l'histoire non seulement ne sert à rien, mais l'histoire fait partie des multiples aliénations. Donc, on peut oublier tout. Bon, je crois que c'est un tour de passe-passe parce qu'au passage, on oublie le stalinisme et les défaites, etc., etc. Mais non, on se sent beaucoup moins seul que ou je me sens, mais enfin non, mettons-le au pluriel, je suis quand même pas seul. On se sent beaucoup moins seul
que dans les années 80.
Que dans les années 80, évidemment. C'est vrai sur le plan intellectuel, si on regarde ce qui bouge autour de Copernic, de Attaque, des revues comme Actuel Marx, Contretemps, etc. Mais c'est surtout vrai au plan international. Hein. Il y a une nouvelle gauche radicale politique, et pas seulement sociale, au niveau européen, en Angleterre, en Écosse, en Italie avec Refondation communiste, au Portugal avec le bloc socialiste. Bon, on verra. On va essayer d'ailleurs de... On tient des réunions semestrielles de la gauche anticapitaliste européenne. On verra si on arrive à donner davantage de consistance. Les élections européennes peuvent être une occasion difficile, mais une occasion dans la mesure où ça incite déjà à se coordonner ou à se regrouper. Et là-dedans, l'héritage des marxismes, parce que je mets toujours au pluriel... Bon, que ce soit sur la critique de la marchandisation ou du fétichisme de la marchandise ou de la valeur, etc., et reste centrale, pas exclusive, mais centrale. Et je crois que tout ce bagage-là est utile. Bien sûr, les révolutions à venir ne ressembleront pas à celles du 19e ou du 20e siècle, mais il y a des leçons qui débordent leur siècle à un certain point.
Alors vous parliez des alternatives. Ce qui se dessine en France a l'air quand même moins glorieux, puisqu'il y a quelques tentatives de rassemblement à gauche de la gauche ou un peu moins à droite que les autres rassemblements de gauche. On parlait de Ramulot. Comment vous percevez ça? Vous êtes militant à la LCR. La LCR n'a pas voulu s'inscrire dans ce type de démarche. Mais au-delà de ça, comment vous percevez ce type de tentative de réorganisation?
Non, on est pour le débat avec les composantes et les individus de ce regroupement qui s'est appelé Ramulot ou avec d'autres, et même avec les partis. On a invité le courant Nouveau Monde à notre université d'été, les Verts, le maire était là, le PC, etc. Mais le problème est, bon, discutons, des bilans, des perspectives. Mais en revanche, si on veut aborder la question... des outils politiques pour intervenir. Pour nous, il y a quand même une conclusion des expériences, et notamment de la dernière séquence des 5 années de gouvernement Jospin, c'est que, pour le dire en une formule, une autre gauche est nécessaire. Une autre gauche, et ça ne part pas de combinaisons, d'alliances, de rafistolage, de bricolage, etc. Ça doit partir des contenus. Pas forcément d'ailleurs d'un accord à 100% avec ce qu'on peut penser sur les conseils ouvriers, l'autogestion et les soviets. Mais il faut au moins que sur les grandes questions de l'heure, à savoir une alternative aux réformes libérales qui continuent et s'aggravent. Bon, le mot est général, mais enfin, quand on passe à l'acte, le PS n'a pas songé une minute en 5 ans à abolir la loi de 93 sur les retraites, la loi Balladur. Bon. Donc il ne suffit pas, quand on n'est plus au gouvernement, de rajouter un peu de radicalité dans le vocabulaire. Mais c'est un problème, effectivement, de texte, mais aussi d'acte. Donc ça, deuxièmement, il y a une réforme des institutions démocratiques. Ça, ce n'est pas une révolution. Or, ils ont fait exactement le contraire. Ils en ont été victimes. Je pense surtout aux socialistes, au gouvernement, puisque la réforme sur le quinquennat, qui a l'air comme ça anodine, après tout 7 ans, 5 ans, on s'en fout, puis on ne va pas défendre les 7 ans. Mais la logique est un renforcement de l'aspect présidentiel et dans la direction du bipartisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un véritable enjeu, d'ailleurs, vu les réformes électorales de Sarkozy, c'est de savoir si, par le jeu des réformes électorales, ils arriveront, comme il y a eu une grande UMP à droite, à avoir une sorte de parti unique à gauche, autour ou en alliance organique avec le PS. Nous, on dit le fait de faire exister une autre gauche, c'est un enjeu pour l'avenir, pas pour nous, mais pour l'avenir réellement, de ne pas être absorbé et digéré comme ça dans cette espèce de ventre rose, de plus en plus d'ailleurs mou. Enfin, c'est dégueulasse tout ça. Bon, enfin, c'est... Non, mais sans blague. Et puis, on va voir là, ils vont être sauvés par le gong parce que visiblement, le gouvernement et les gouvernements ne vont pas oser, je crois, organiser un référendum sur la constitution Giscard pour l'Europe. Ils auraient, après celui de Corse, toute chance de le perdre. D'ailleurs, aujourd'hui, ils feraient un référendum pour savoir si le soleil se lève à l'est. Ils risqueraient de le perdre aussi. Donc, mais ça va tirer une épine du pied au PS et aux Verts, dont les députés hier au Parlement européen ont voté comme un seul homme la constitution au niveau du Parlement européen. Bon, évidemment, on votera contre. Elle répète le credo libéral de Maastricht, elle perpétue l'OTAN, elle ne développe aucun contenu social sérieux et surtout pas des critères de convergence en matière de protection sociale, de salaire ou de temps de travail. Bon, voilà. Et puis enfin, il y a toute la question de la guerre. Malheureusement, je ne suis pas certain si la gauche plurielle était au gouvernement aujourd'hui qu'elle n'aurait pas participé à l'expédition en Irak. C'est pas une apologie de Chirac. Mais après tout, elle a embarqué dans trois guerres sans vote parlementaire depuis 1991.
Bon, on est content de savoir que vous n'allez pas fusionner et que vous n'allez pas devenir un intellectuel du Parti Socialiste par voie de conséquence. La dernière fois qu'on s'était vu, alors il reste très peu de temps, c'était au sortir de la guerre, c'était sur les conséquences de l'après-guerre d'Irak. Oui. On était juste quelques semaines après. Est-ce qu'on peut essayer de voir un peu comment vous voyez cette... Enfin, vous imaginez un peu ma question ?
Oui, on était sortis de la bataille et pas de la guerre. Et d'ailleurs, il y avait une tribune dans Le Monde à ce moment-là, en avril, d'un certain James Woolsey, qui a été directeur de la CIA, donc qui est censé être autorisé, qui disait « on est parti pour une guerre de 40 ans ». Lui le souhaitait. Hein. « J'espère qu'elle ne durera pas plus de 40 ans ». Bon. Donc la guerre illimitée dans le temps et dans l'espace annoncée par George Bush le 20 septembre 2001, on y est. Alors il y a des batailles, il y a des phases actives, il y a des phases d'occupation, mais on est dans une logique de guerre et on y est installé durablement par la politique des armements, par la relance de la course aux armements, par l'occupation en Irak. Et ce que nous disions à l'époque, mais c'est pas pour s'en féliciter ou s'envoyer des autosatisfaits, le discours de Kofi Annan sur l'état des Nations Unies le 8 septembre commence par le constat que la situation est bien pire internationale, d'ailleurs la crédibilité de l'ONU bien moindre que ce n'était le cas avant la guerre en Irak. Donc on est dans cette situation-là, ce qui implique que la mobilisation anti-guerre est une mobilisation elle aussi de longue durée. C'est d'ailleurs devenu très spontanément et plus facilement que je l'aurais imaginé une des dimensions organiques des forums sociaux. C'était le cas à Florence avec la manifestation. Et c'est de là que sont partis les appels aux manifestations internationales du 15 février. Et surtout, je crois que de plus en plus larges secteurs du mouvement ou des mouvements sociaux font le lien entre justement la guerre sociale, l'agression libérale, la marchandisation du monde et les violences. C'est classique, il y a un beau texte de Rosa Luxembourg que je cite là-dedans, qui rappelle déjà qu'avant 14, le discours officiel était que les guerres et les violences étaient des accidents, des à-côtés, alors qu'elle disait non, c'est un des moyens et une des voies par lesquelles s'opère nécessairement l'accumulation du capital, la conquête coloniale et le maintien de la domination. Mais voilà, on y est.
Et ben voilà, on va finir cette émission en citant Rosa Luxembourg. Guillaume, tu voulais dire deux mots.
Il va y avoir le FSE là bientôt en novembre. Ce genre de rencontre, qu'en pensez-vous ?
Très important.
Vous n'avez pas une heure pour
répondre. Non, que ce soit le succès le plus large. D'ailleurs, tous ces forums s'élargissent.
C'est politiquement utile, ça a une portée.
C'est politiquement utile à une condition, c'est qu'il n'y ait pas de censure ou d'autocensure des débats. C'est un espace unitaire de débat qui prépare des mobilisations, qui n'est pas habilité à voter, c'est pas un congrès. Mais donc, il faut que cet espace soit réellement pluraliste et pluriel et que justement les questions qui préoccupent soient traitées fraternellement mais ouvertement. Ça, c'est une condition d'efficacité pour la suite.
Voilà. Donc séquence promo. Daniel, on va citer que des éditions textuelles là, puisque Daniel Ben Saïd, le livre qui précédait celui dont on a parlé aujourd'hui, Le Nouvel Internationalisme contre les guerres impériales et la privatisation du monde. Alors la collection, c'est la Discorde et l'éditeur, c'est Textuel. Ça coûte 18 euros et ça se trouve même dans les mauvaises librairies. Toujours Daniel Ben Saïd, Un monde a changé, c'est le livre sur lequel on s'est penché ce soir durant toute cette émission. Mouvement et stratégie, toujours la collection La Discorde, toujours les éditions textuelles et aussi 18 euros. Et puis on rappelle que vous êtes le directeur de la revue Contretemps, oui. Publiée par Textuel. Qu'on se procure également en librairie, qui a une diffusion pas gigantesque, oui, d'après ce que j'ai compris.
Elle n'est pas aussi large que nous le souhaiterions, donc il faut la faire connaître. Je vous remercie.
Voilà, donc.
Non, c'est nous qui vous remercions. Pardon.
Vous revenez quand vous voulez. On se retrouve, nous, la semaine prochaine à 19h pour une nouvelle édition des Oreilles Loin du Front. On vous abandonne dans les bras d'Écho du Capricorne. Voilà, Alexandrine, Guillaume, Esteban et Pierre, merci. Daniel Ben Saïd, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.